Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Info.
En compagnie ce soir de Caroline Michel-Aguirre du Nouvel Obs, Stéphane Vernet de Ouest France, Elsa Fresnay des Échos, et on a le plaisir d'accueillir Jean-Philippe de Rosier, le constitutionnaliste. Bonsoir. Bonsoir à vous, prof de droit public à l'Université de Lille. Je vais vous donner les coulisses de la création de ce sujet. On voulait s'interroger sur le solo, on va appeler ça comme ça, de Gabriel Attal, qui répondait seul aux questions d'actualité à l'Assemblée cet après-midi, ce qui est inédit en France. Et puis on a vu monter un autre sujet qui questionne aussi sur le fonctionnement de l'Assemblée, qui est que le président de la commission d'enquête parlementaire sur la TNT, en l'occurrence Quentin Bataillon Renaissance, se fait recadrer par la présidence, Yann Bonpivet, parce qu'il s'est rendu à l'émission d'une des personnes auditionnées par sa commission, Cyril Hanouna, pour dénigrer un autre auditionné, en l'occurrence Yann Barthez. Sur ces deux faits d'actualité, dont il nous a semblé qu'il y avait sans doute des réflexions intéressantes, mais déjà sur les deux faits d'actualité liés au fonctionnement de l'Assemblée, Jean-Philippe de Rosier, que dit le constitutionnaliste ?
Qu'il faut les distinguer, ce sont deux aspects complètement différents.
C'est pour ça que vous êtes là.
Il y a effectivement une évolution avec une nouvelle expérimentation dans ce que l'on appelle les questions d'actualité au gouvernement, qui sont ces séquences qui ont été introduites il y a une cinquantaine d'années à l'initiative du président Valéry Giscard d'Estaing, permettant aux parlementaires d'interroger les membres du gouvernement sur des sujets d'actualité au moins une fois par semaine. Désormais, c'est constitutionnalisé et ça se produit deux fois à l'Assemblée nationale et une fois au Sénat. Afin de faire évoluer un petit peu cela, depuis aujourd'hui, donc, le Premier ministre s'est soumis lui-même à la question. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau parce que le Premier ministre répondait déjà aux questions. Les questions sont adressées aux membres du gouvernement, donc à tous les membres du gouvernement. Et jusqu'à preuve du contraire, le Premier ministre est bien membre du gouvernement.
Donc oui, mais c'est inédit qu'il soit seul, on est d'accord.
Ça lui est déjà arrivé d'être interrogé et de répondre. Mais effectivement, l'évolution, c'est qu'il décide et il annonce que c'est lui et lui seul qui répondra aux questions qui lui seront posées. C'est inédit en France, mais ce n'est pas inédit dans le monde, puisque c'est issu du modèle britannique, où là aussi, il y a question time, le temps de la question, et prime minister question time, le temps de la question au Premier ministre, qui se déroule là aussi une fois par semaine. Donc, c'est le Premier ministre qui est mis à la question. Généralement, les parlementaires britanniques en profitent pour avoir des interrogations, peut-être ciblant moins une politique relevant d'un ministère en particulier et interrogeant des questions relevant de la politique nationale générale ou des questions plus fondamentales.
On demandera aux informés si ce qu'ils en ont vu, mais je voudrais votre réponse sur le deuxième fait.
Alors, le deuxième fait, effectivement, n'a rien à voir avec le premier. Vous avez dit vous-même, c'est un événement d'actualité qui vient se cumuler au précédent et qui effectivement interroge sur ce que l'on pourrait appeler la dignité de la fonction parlementaire lorsque on préside une instance qui n'est pas tout à fait n'importe quoi, c'est-à-dire une commission d'enquête qui dotée d'un certain nombre de pouvoirs importants. On avait pu le voir dans le passé, pouvoir d'enquête sur pièce et sur place pour le rapporteur, pouvoir d'injonction de la part du président pour transmettre des documents, pour amener le cas échéant des personnes aux auditions, aller sur un plateau télé qui fait l'objet de la commission d'enquête, la chaîne en elle-même, c'est pas seulement l'émission, c'est pas seulement la personne qui anime l'émission qui a été auditionnée, c'est la chaîne relève de celles qui font l'objet de la commission d'enquête, qui plus est, dans une émission qui a suscité un petit peu de polémique, pas seulement dans l'opinion publique et politique, mais des polémiques juridiques, elle a été sanctionnée plusieurs fois par l'ARCOM. Donc tout cela, effectivement, conduit à interpeller sur le sens de cette dignité parlementaire et le respect de ce qu'on pourrait appeler généralement une déontologie des députés.
Il n'y a pas de sanction prévue à ce jour pour contraindre au silence un président de commission quand le travail n'est pas terminé.
Alors non, on ne peut pas contraindre au silence un parlementaire. Fort heureusement, le parlementaire, le député a le droit de s'exprimer.
Compte tenu de sa mission, est-ce que ça ne fait pas partie
Il a une obligation en vertu de ce code de déontologie qui est inscrit dans le règlement de l'Assemblée nationale de satisfaire l'intérêt général. Il y a une tradition qui impose une forme de devoir de réserve de la part des présidents de commission d'enquête. On pourra y revenir, mais mais on peut pas le contraindre de se taire. Maintenant, si on devait considérer qu'il avait violé, qu'il s'était placé en position de conflit d'intérêt, là, effectivement, il pourrait être sanctionné par rapport à cela. Mais ça suppose une interprétation peut-être un petit peu extensive des textes, ou en tout cas d'engager pour le moins des sanctions disciplinaires.
Stéphane Vernet, qu'est-ce que ça vous inspire, l'un puis l'autre, ou les deux événements?
Écoutez, la séance des questions au gouvernement, elle est fondamentale, elle est très utile, elle existe depuis 50 ans, effectivement. L'usage fait qu'en général, le Premier ministre répond quand la question est posée par un président de groupe parlementaire, c'est l'usage. Le résultat, c'est les ministres qui répondent. Le fait que c'est une formule qu'on a cherché à faire évoluer dans le temps, etc., parce qu'elle intéresse beaucoup de gens, mais elle n'est pas toujours très efficace. La dernière réforme des questions au gouvernement n'avait pas été formidable. En fait, ça avait cassé un peu.
Ça vous choque ou pas qu'ils monopolisent en clair une session entière, les uns les autres?
Tout dépend. Moi, ce qui m'interroge, si vous voulez, c'est que je pense que c'est là qu'on peut faire le lien avec l'autre sujet. C'est-à-dire que on est aussi en fait dans une dérive progressive où l'Assemblée, bien plus que le Sénat, est devenu un espace de joute médiatique et de communication. Mmh. Et le fait qu'on crée... Non, alors, c'est pas nouveau, mais ça fortement... Moi, je me souviens de François de Rugy qui disait la fonction tribunicienne à l'Assemblée, elle a toujours existé. C'est-à-dire que vous avez toujours eu des parlementaires, des députés qui faisaient des bons mots, etc. Mais autrefois, vous aviez seuls les scribouillards, les plumitifs de la presse écrite qui étaient en loge de presse, etc., qui prenait des notes, reprenait les bons mots, etc., et ça passait par les journaux, ok.
Donc, et ce qui a changé, déjà là-dessus qui s'arrêtait.
Non, mais ce qui a changé, c'est 2017.
C'est moins fréquent. Ouais.
C'est 2017. Vous avez une nouvelle génération qui accède à l'Assemblée. Vous avez notamment les premiers députés France Insoumise qui arrivent, et on voit apparaître, en fait, tout un travail de mise en scène de la prise de parole des députés dans l'hémicycle. Souvenez-vous,
ils l'ont même revendiqué.
Mais bien sûr, il y a ceux qui mettaient leur course sur le pupitre, François Ruffin qui monte à la tribune avec le t-shirt de son maillot de foot préféré, de son équipe de foot préférée, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, vous avez toute une pratique qui consiste à rechercher l'incident, le bon mot, l'esclandre, tout ce que vous voulez, la pique, hein. Et vous avez des petites mains derrière qui extraient tout de suite les extraits des prises de parole pour les mettre sur les réseaux sociaux. Et on est rentré dans une espèce de course à l'échalote où la finalité de ce truc-là, ou l'aboutissement, c'est des députés qui meurent d'envie de passer à la télé dans les émissions de grande écoute. Ça rend complètement dingue. Et on se retrouve avec ce qui s'est passé chez Hanouna. Mais souvenez-vous du député Sonneforget qui allait dans ses émissions de variété, machin, etc.
Il y a des individus, et puis il y a un mouvement général, mais oui, il y a de plus en plus d'individus.
Je trouve qu'il se passe quelque chose, si vous voulez, c'est-à-dire avec cette espèce de volonté de communiquer de plus en plus, y compris dans des registres qui n'ont rien à voir avec l'habitude, quoi.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Avec ce soir Caroline Michel Aguirre du Nouvel Obs, Elsa Fressonnet des Échos, Stéphane Vernet de Ouest France et le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier. Alors parmi les gens que ce solo d'Gabriel Attal a agacé, on va entendre Fabien Roussel, le député communiste. Écoutez.
Le Parlement fait la loi, mais il contrôle aussi l'action du gouvernement, notamment par ces questions. Et là, on n'a pas la possibilité d'interroger tous les membres du gouvernement, tous les ministres qui ont des comptes à rendre dans leur ministère auprès des Français. Et c'est la raison pour laquelle ce format-là ne peut pas durer, ça ne peut pas marcher. Et puis en plus, il énerve tout le monde parce qu'il est méprisant, cassant. C'est une opération de communication pour lui. Il faut se faire mousser en faisant du buzz.
Voilà, Caroline Michel Aguirre, il y a le fond, la forme dans ce que dit Fabien Roussel, mais par rapport au constat que faisait Stéphane Vernet et aussi ce que vous avez entendu là.
Alors juste une petite précision sous contrôle de Monsieur le constitutionnaliste, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a toujours les questions au gouvernement,
oui,
au ministre la veille, le mardi.
Et qui durent deux fois plus longtemps.
Et voilà. Et il y a même celle du Sénat qui avait dans la
foulée. Ils sont juste après celle du...
Mais bon, c'est le moment en solo.
Alors, et pardon, si je peux mettre juste une toute petite parenthèse. Les députés se plaignaient au moment où ils avaient cumulé les auditions à l'Assemblée nationale à 14h et au Sénat à 15h, où il fallait foncer à toute berzingue, boulevard Saint-Germain, etc. Bon, bah maintenant, ça, ce problème-là est réglé, parce que les ministres peuvent aller tranquillement au Sénat et le Premier ministre va les rejoindre ensuite.
Et c'est les mêmes. Mais les sénateurs n'auront plus le Premier ministre.
Mais si, parce qu'il va arriver avec 5 minutes de retard.
Il arrive dans la foulée. Oui, si.
Et ce sera qu'une voiture qui foncera à toute berzingue sur le boulevard Saint-Germain.
Bon, Carole Michel.
Oui, donc, juste, c'était pour, pas induire en erreur. Je suis complètement d'accord avec Stéphane Vernet. Les deux affaires se rejoignent au sens où on est dans le thème de grandeur et décadence du coup de com' permanent. On sait que le communicant de Gabriel Attal épingle sur son mur les unes des journaux où Gabriel Attal, que Gabriel Attal a fait. C'est pour vous dire à quel point cette équipe pense que le nombre de fois où le projecteur sera sur Gabriel Attal, où il pourra montrer qu'il possède tous les dossiers comme Emmanuel Macron au demeurant. Et puis il y a quelque chose qui est très symptomatique, je dirais, de cette époque-là, c'est que Gabriel Attal a dit « oui, mais mes conseillers techniques sont derrière moi ». Pour répondre. Donc, ça ne sont plus les ministres qui sont sollicités pour répondre sur des sujets dont ils ont la responsabilité, ce sont les conseillers techniques. Et quand on parle au directeur de cabinet, au cabinet des ministres, qui vous racontent qu'ils sont un peu dans la com' de crise permanente, avec sans feuille de route très claire pour une partie d'entre eux, avec toujours la peur de faire une gaffe, etc., que tout est centralisé à l'Élysée, et que finalement, ils ont toujours peur de faire un mot de travers. Mais on voit bien qu'on a dans cette équipe un énorme souci de la communication qui a fait déraper M. Bataillon et aussi une forme d'inexpérience. Parce que quand un Bataillon, je n'ai pas son âge, mais je pense qu'il faut avoir une certaine inexpérience de ce que c'est l'Assemblée nationale ou une commission d'enquête pour ne pas voir où est le problème, d'aller parler avant que le rapport soit rendu auprès d'un auditionné. Enfin,
alors, ce qu'on dit dans la majorité, quand même, c'est que les auditions étaient terminées.
Oui.
Et qu'il ne restait plus que le rapport à rédiger, que ce n'est pas lui qui le fait.
Même.
Donc, moi, m'a-t-on dit, ça ne remet absolument pas en question le travail de la commission.
Il a un mot, le président a un mot dans le rapport.
Oui,
hein,
il me semble aussi. Hein. Le rapporteur le rédige.
Je vous dis juste qu'on
Oui, répondu. Parce qu'on lui cherche des excuses. Mais la majorité est obligée de lui trouver des excuses. Mais par ailleurs, et Yael Braun-Pivet qui l'a fait savoir, mais et Sylvain Maillard était furieux. Hein, donc le chef
elle l'a reçu cet après-midi. Ouais. Il y a une faute personnelle, okay, mais est-ce que plus globalement sur le fonctionnement de l'Assemblée, est-ce que Jean-Philippe Derosier disait non, on va pas lui couper, lui interdire de parler. Mais est-ce que ça peut pas faire partie des... est-ce que c'est pas le moment,
penser.
Avec tout ce que vous avez raconté les uns les autres, de peut-être changement sociétal, changement de génération, les réseaux sociaux, de remettre un peu à plat un règlement de l'Assemblée qui inclurait ces nouvelles problématiques?
Alors, contrairement à mes camarades, moi, je trouve que les questions d'actualité posées au Premier ministre et l'histoire Bataillon sont à distinguer. C'est vrai qu'il y a une génération qui vit plus pour la télé que pour les débats dans l'hémicycle, mais ça avait commencé avant. Mais je trouve qu'on a deux choses très différentes. On a effectivement un député qui aurait dû penser de lui-même et sans règlement que avant que le rapport soit rédigé, il n'avait pas à aller en gros chez l'un des belligérants.
Même après, d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment sa place? Je sais pas.
Bon, après, on peut.
Enfin, les règlements sont faits pour rappeler à ceux qui n'y pensent pas tout seuls que.
Oui, non, mais
c'est ce que Yael Braun-Pivet a fait. Mais je voudrais.
Alors, finissez.
Et il y a quand même. Moi, je serais pas totalement négative sur les questions au Premier ministre.
D'accord.
D'abord, c'est une proposition qui lui a été faite. En plus, c'est un as de la com, il va en jouer très bien. Peut-être que ça peut donner un peu de vision d'ensemble et cohérence de cette politique du gouvernement, parce que on en manque quand même. Voilà. Et enfin, il y a une utilisation, on verra s'il l'a fait, hein, vertueuse de ces questions d'actualité, c'est qu'il fut un temps où les premiers ministres puissants utilisaient ces questions d'actualité au Parlement pour faire des annonces. Et ça mettait en valeur le Parlement.
On laisse 15 secondes, verra... 15 secondes à Jean-Philippe de Rosier pour qu'il réponde.
Oui, parce que je vous rejoins sur les questions au Premier ministre. On se plaint toujours que le Premier ministre est un subalterne du Président de la République. Et là, il se place sur le devant de la scène, il dit aux députés, je suis là, passez-moi au crible. Et ça leur va toujours pas. Donc il y a quelque part une certaine incohérence. Et donc, moi, je vous rejoins, je pense que c'est une bonne chose. Il est celui qui dirige l'action du gouvernement. Il est là pour répondre de l'action de l'ensemble du gouvernement et donc pour répondre aux députés qui l'interrogent. Quant à, aux agissements de M. Bataillon et aux règles qu'il faudrait prendre, non. Je pense que c'est d'abord une question d'éducation personnelle et de prise de conscience que quand on est un élu de la nation, on ne se comporte pas n'importe comment.
On va rappeler que d'autres avaient parlé, certains
agissements qu'on ne fait pas.
Sans doute que d'autres.
Mais pas chez un mise en cause, c'est ça.
Absolument, mais le fait de parler.
Mais qu'il s'exprime n'est pas un problème. Qu'il aille effectivement dans une émission sur une chaîne.
Qu'il s'exprime n'est pas un problème sans que le boulot soit fini, non?
Non, il peut s'exprimer. Après, ça dépend ce qu'il dit, mais la façon dont il s'exprime. Ils font des communiqués de presse et lorsqu'ils sortent des auditions, ils peuvent s'exprimer devant la presse, s'ils le souhaitent.
Les unes, messieurs, dames, Stéphane Vernet pour Ouest France demain.
Alors, la une de Ouest France demain, c'est la très belle victoire du Stade Rennais face à Paris Saint-Germain en Coupe de France. Non, je plaisante parce que le match n'est pas encore joué. En fait, plus sérieusement, on a un sujet sur le déficit, la réduction du déficit qui pose question au sein de Renaissance. Voilà.
Blague à part, si le Stade Rennais gagne,
ce sera la une.
Sauf au tir au but, peut-être, c'est pas, je sais pas si j'y arrive, vous y arriverez jusqu'à quelle heure.
Ouais, c'est ça, c'est tard.
Bon, je vais me faire gronder. Caroline,
c'est une sur Gérard Depardieu, Anatomie d'une chute.
Merci à tous les quatre. Merci
et les
à Elsa Fresnay. Les échos, pardon.
Nous, le défi des transmissions des PME.
Pardon. Les PME. Merci à tous. Les informés demain matin. Salia Braclia, Renaud Dely, à 9h. Et nous, on sera là dès 20h. Bonne soirée.